fera son retour au fédéral avec le portefeuille de la fonction publique et des entreprises publiques. On attend à présent la déclaration du nouveau Premier ministre à la Chambre vers 16h30, puis au Sénat. Selon le projet de déclaration mis en ligne par la Libre Belgique, le gouvernement Le Terme 2 devrait jouer la carte de la continuité en faisant de l'assainissement budgétaire du dossier écologique, mais aussi d'une résolution équilibrée du conflit BHV ses premières priorités. On se souvient de la vague d'attaques coordonnées qui avait frappé Bombay l'an dernier. Un tribunal spécial avait été constitué au Pakistan pour faire la lumière sur les soupçons qui indiquaient que les terroristes impliqués dans les attaques faisaient partie d'un groupe extrémiste musulman basé au Pakistan et nommé Lashkar-e-Taiba. L'Inde et les USA accusaient même les renseignements pakistanais d'avoir soutenu logistiquement ce groupe armé. Les investigations du tribunal ont mené à l'accusation et à l'interpellation de 7 suspects pakistanais dont le cerveau présumé des attaques, ainsi qu'un des cadres du mouvement terroriste incriminé. Et puis retour chez nous, c'est l'incertitude à Anvers. La firme GM a en effet annoncé des suppressions d'emplois dans sa filiale Opel en Europe, et plus particulièrement en Allemagne et en Belgique, où 84% de la restructuration aurait lieu. Si on ne sait toujours pas si le site d'Anvers fermera totalement ses portes, l'agence de presse allemande DPA annonce, selon une source proche du dossier, que 2000 des 2600 postes d'Anvers devraient être supprimés. Les employés attendent toujours une annonce officielle de GM Motors.
C'était Quentin Doxan au micro pour ce flash de 14h. Tout de suite, Fluxus, choix musical varié. A tout de suite sur Radio Campus.
Radio Campus, une petite claque aux grandes mauvaises radios.
Aïe, aïe,
tu crois que c'est un ou pas? J'en ai rien à foutre, tu poses ton cul là-dessus, là. Assieds-toi. Je reste là.
Laisse-moi.
Je reste là.
Elle ne me permet pas d'avoir mes propres amis.
Il n'aime pas que je passe du temps avec ma famille ou mes amis.
Elle m'a tapé et poussé dans les escaliers.
Il veut m'imposer certaines pratiques sexuelles. Je ne les aime pas, ces pratiques. Et quand je le lui dis, il me dit mais
alors qu'il était violent, alors qu'il est revient avec un bouquet de fleurs.
Elle critique tout et n'est jamais contente.
Il casse tout dans la maison, ça les signifie. Je pourrais
elle me téléphone sans arrêt sur mon téléphone portable.
Il me dit les enfants ne ferment jamais les portes. Ils n'éteignent jamais les lumières. C'est fou ce que tu les élèves mal.
Quand on se dispute, il rédige son testament. Il dit qu'il va se tuer et que ce sera de ma faute.
Tu as encore dépensé tout ce que je t'ai donné. Dernièrement, c'est moi seul qui aurai accès au compte en banque.
Tu n'es vraiment bon à rien.
Il crie chaque soir.
Bonjour chers auditeurs. Bienvenue dans notre émission « Quand ce n'est plus le cœur qui cogne ». Cette émission vous est présentée par Sophie, Sarah et Julien. Nous
Bonjour.
Sommes tous étudiants.
Bonjour.
Cette émission traite de la vie amoureuse chez les jeunes. Elle est le fruit d'un partenariat entre Radio Campus et Infor Jeunes. Elle est également subventionnée par le Fonds d'aide à la création radiophonique, la Communauté française, secteur jeunesse et égalité des chances. La question des violences amoureuses nous touche particulièrement aujourd'hui. En effet, aujourd'hui est le lancement de la campagne du Ruban Blanc. C'est une campagne de sensibilisation et de mobilisation sur la question des violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, la chance et le bonheur de recevoir Dani Klein parmi nous. Dani Klein, merci de consacrer un peu de temps de votre temps, car nous savons que votre planning est fort chargé.
Bonjour, c'est un plaisir d'être là.
Bonjour Dani Klein, vous êtes revenue sur le devant de la scène musicale et nous aimerions évoquer avec vous votre actualité musicale.
Oui, j'ai un nouvel album qui vient de sortir, un nouveau CD en français, tout à fait en français cette fois-ci, qui s'appelle « Comme on est venu ».
Pourriez-vous nous parler de votre engagement auprès d'Amnesty International dans sa campagne de lutte contre les violences amoureuses ?
Écoutez, oui, je participe quand j'en ai l'occasion, quand mon agenda me le permet. Je prends la parole, je vais à des manifestations, j'essaie de participer à la conscientisation du problème de la violence conjugale ou autre, d'ailleurs, la violence amoureuse, oui.
Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre part à cette campagne ?
Mais des expériences personnelles.
Quel est le message de cette campagne ?
Le message de cette campagne, c'est que la violence, c'est pas OK, quoi. Que quand il y a de la violence dans un couple, dans une relation, c'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose de malsain qui est en train de se passer dans cette relation. Et qu'il faut agir vite, parce qu'en général, quand les premiers signes de violence surgisse, en général, ça ne fait que s'empirer et c'est l'escalade vers la violence totale. Donc je pense que c'est vraiment aider les gens à prendre conscience que ce qui est peut-être vécu, peut-être, ou en tout cas ce qu'on fait croire qui peut être normal, ne l'est pas.
Quelle est la méthode première que vous avez utilisée pour transmettre ce message ?
Écoutez, comme je vous dis, moi j'ai participé à des conférences, j'ai participé à des actions, quoi. Voilà, j'ai écrit moi-même une chanson dans mon nouvel album sur la violence. J'en parle, je fais ce que je peux.
Afin de traiter les préjugés et les mythes qui entourent la question des violences amoureuses, nous avons réalisé un micro-trottoir. En voici un premier extrait dont la question était « Les violences amoureuses sont-elles une perte de contrôle ou une prise de pouvoir ?»
Est-ce que vous pensez que la violence est une perte de contrôle pour vous ? Est-ce que ce serait plutôt un moyen de prendre le contrôle ?
Ben, c'est un peu des deux, quoi. Tu perds le contrôle, tu sais plus quoi faire, alors la seule chose qui reste à faire, ben, c'est être violent parce que tu sais pas quoi faire d'autre, quoi. Mais en même temps, oui, c'est un peu aussi une prise de contrôle parce que t'as envie de prendre le pouvoir ou quoi, mais pour moi, c'est aussi bien une perte de contrôle, quoi. Tu sais plus quoi faire et voilà, tout ce qui te reste, c'est te battre. Génial. Frapper.
Moi, je pense que c'est une perte de contrôle.
Ouais.
Ouais. Quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer va va peut-être en venir aux mains justement parce qu'il n'arrive plus à s'exprimer. Donc c'est une perte de contrôle.
Parfois c'est essayer de prendre le contrôle dans le couple justement, à travers la force.
Non, moi je pense pas. Non. Je pense que non, c'est plutôt pour... C'est une perte de contrôle de soi-même, je pense.
Les deux. Moi je dirais plutôt de prendre contrôle dans le couple. Et répète-moi.
Donc qu'est-ce que vous pensez, que c'est une manière de prendre le contrôle ou c'est une perte de contrôle ?
Perte de contrôle en agissant comme ça de toute façon. Mais c'est pour prendre le contrôle sur l'autre.
Ça peut être les deux en fait. Oui. Ça dépend vraiment de la personne, mais ça peut être les deux. Mais généralement c'est prendre contrôle.
C'est une perte de contrôle.
C'est un peu une manière de prendre le contrôle et justement
pouvoir
de
dominer l'autre personne.
Ça dépend. De temps en temps, on est déboussolé, on en fait un recours. Ça peut être une solution, la dernière solution, mais qui n'est pas du tout bonne.
Je t'ai pas frappé, je t'ai tordu le bras sans faire exprès. Je t'ai tordu le bras sans faire exprès, alors tu vas te calmer là.
Donc voilà, Dani, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que c'est plutôt une perte de contrôle ou une prise de pouvoir ?
Je pense que c'est les deux. Je pense que y a quelque chose dans les personnes qui sont violentes vis-à-vis des autres, effectivement, qui ont besoin de dominer l'autre, de réduire l'autre à l'état d'objet, hein, et qui se sentent menacées par la liberté de l'autre. Et je pense effectivement que c'est une question de contrôle. Mais je pense aussi que de la part des femmes, souvent, celles qui se retrouvent, et ça a été mon cas, c'est qu'elles ont... Il y a aussi une espèce d'illusion de pouvoir. C'est-à-dire, oui, il boit, ou il frappe, ou il est violent, ou il est caractériel. Mais moi, grâce à mon amour, je vais le changer. Et je vais en faire quelqu'un de doux et quelqu'un d'heureux, etc. Et c'est bien souvent là que l'erreur commence, quoi. Et quand on met le pied dans cet engrenage, on se rend compte en fait que non, on ne change pas les gens, quoi. Hein.
Pourquoi vous pensez que les femmes souvent se sentent coupables ?
Ça, c'est vrai. Je ne sais pas. C'est une maladie. C'est parce que je pense aussi que les hommes violents sont aussi, les femmes violentes aussi d'ailleurs, ont un côté manipulateur et donc arrivent à vous manipuler de façon à ce que vous finissez par croire que c'est vous qui avez engendré la violence dont vous faites l'objet. C'est la même chose dans les violences sexuelles, dans les incestes, etc. Bien souvent, hein, vous voyez par exemple dans les viols aussi, hein, souvent la société a considéré que si la femme s'est fait violer, c'est parce qu'elle était trop sexy, parce qu'elle elle a dévoilé un bout de cuisse qu'elle n'aurait pas dû dévoiler, etc. Et je pense qu'il y a vraiment dans le discours général quelque chose comme ça qui est facile, effectivement, de rendre les femmes responsables de tout ce qui leur arrive et qui donc, effectivement, dégage les hommes de leurs responsabilités.
Donc ici au Canada, il y a le professeur Daniel Welser, thérapeute, qui nous cite comme exemple un de ces hommes accueillis au centre et qui dit « Frappez mon contremaître après une remontrance, vous n'y pensez pas, je serai immédiatement licencié.
» Mais oui, bien sûr, on ne se permet la violence que sur ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, hein. C'est toujours comme ça, c'est pour ça que c'est... Je pense que quelqu'un qui est violent doit se faire soigner, il y a vraiment un problème, et je pense que c'est dangereux aussi d'en faire des monstres et d'en faire des... Je veux dire, ce sont des gens qui ont besoin d'être aidés, comme les gens qui souffrent de violence ont besoin de se faire aider, ceux qui sont violents devraient pouvoir réaliser qu'en fait ce comportement n'est pas un comportement normal, entre guillemets, et qu'ils doivent se faire aider, ils doivent se faire soigner. Parce que, je veux dire, ça n'aboutit à rien de bon, de toute façon. Hein.
Et par ici, on montre justement que ces personnes qui frappent leur femme ou leur homme, ça dépend qui agit, ils s'autorisent, entre guillemets, à frapper au sein de leur couple, mais ils ne s'autoriseraient pas à frapper leur employeur.
Ah non, parce qu'ils prennent un risque, évidemment. Je veux dire, on frappe plus faible que soi, on frappe celui qu'on domine.
Donc quelque part, ce n'est pas une perte de contrôle, puisqu'on arrive à contrôler cette violence.
Mais c'est-à-dire, on arrive à contrôler cette violence, c'est une perte de contrôle dans un cas de figure bien précis, hein ? Effectivement, vis-à-vis de l'employeur. Et puis, vous savez, les gens qui sont pervers un peu ou beaucoup d'ailleurs, ont différents visages. Hein. Je veux dire, vous avez souvent des hommes, par exemple, qui sont violents et qui sont fort appréciés par leurs amis, par leur cercle social, etc. Et dont on ne penserait pas que justement... À la maison, ils peuvent être violents. Ce sont souvent des... Quand il y a perversion, il y a forcément... je dirais, il y a quelque chose de l'ordre de l'escroc, là. Il y a quelqu'un qui a des visages différents, qui ne montre pas toutes ses facettes, hein, donc qui réserve des facettes pour certaines circonstances, dans certaines relations, et d'autres facettes à d'autres.
Maintenant, nous allons écouter un morceau du nouvel album de Danny Klein, Il suffisait d'y croire.
À vous. Je crois qu'un jour vous allez revenir, vous jeter à mes genoux, m'implorer de ne plus vous maudire, me dire vos regrets de nous. Je rêve que vous allez m'écrire, que le remords vous a rendu fou, que sans moi vous ne pouvez plus rire, que loin de moi vous n'êtes plus rien du tout. Dans vos silences, j'entends des cris. Dans vos absences, je sens l'ennui. Dans vos errances, des interdits qui vous démembrent une délire. Souvent, je pense encore à vous. J'imagine que de vivre, vous avez perdu le goût. Que le manque de nous vous déchire. Notre ombre vous suit partout. Dans vos silences, j'entends des cris. Dans vos absences, je sens l'ennui. Dans vos errances, des interdits qui vous démembrent et nous délient. Les moelliers sauvages d'une envie, qu'en faisons-nous? De nos enfants se piétiner, du temps qui se languit de nous. Dans vos silences, j'entends des cris. Dans vos absences, je sens l'ennui. interdit qui vous démembre et nous délie. Des voiliers sauvages des navires, qu'en faisons-nous? Des innocences assassinées, du temps qui nous guérit de tout. Des voiliers sauvages du navire, qu'en faisons-nous? De nos enfants se piétiner, du temps qui se languit de nous.
Donc voilà, et à cause d'un petit problème technique, c'est les voiliers sauvages de nos vies que nous avons écoutés, et non pas Il suffisait d'y croire. Nous
qu'on écoutera désolés. Tout à l'heure, il n'y a pas de problème.
Pas de problème. Donc maintenant, nous allons parler des styles musicaux. Nous avons les nouveaux styles musicaux, nous avons accueilli Acro, je ne sais pas si vous connaissez, le chanteur de Starflame qui est
oui,
venu ici.
Oui, oui, oui.
Et donc, dans le rap, c'est une musique qui est, où il y a beaucoup de préjugés envers les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
C'est vrai, je pense, oui. En même temps, je pense que le rap... a toute sa raison d'être, parce que le rap dénonce des problèmes de société, des problèmes de racisme, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau de la position de la femme dans la société, c'est un petit peu regrettable. Et c'est vrai que quand on voit les clips, etc., où vraiment il n'y a que l'argent, le sexe, enfin, je veux dire, il y a cette espèce de d'idéal comme ça, de Scarface, là, hein, Bon, c'est un peu regrettable, oui, je trouve que c'est dommage d'ailleurs qu'on voit très peu de femmes dans le monde du hip-hop, hein.
Mais
Diams, mais elle maintenant elle vient de se recouvrir. Voilà, c'est un peu dommage, mais oui, ça dénonce aussi, enfin je veux dire ça dénonce le problème de société qui existe effectivement dans ces milieux-là. À propos des femmes, justement, de la place de la femme, qui doit être soumise, qui doit regarder par terre, qui doit... Voilà.
Et est-ce que vous trouvez cela choquant, par exemple, comme dans les clips de rap, où on voit un seul homme, comme dans chez Booba, Snoop Dogg, 50 Cent, avec plein de femmes, considérées comme des objets, un petit peu?
Mais oui, c'est choquant. En même temps, je pense que c'est le fantasme de tous les hommes. Franchement, je pense que c'est ça, leur fantasme, c'est d'avoir un maximum de filles à leurs pieds, de pouvoir... Malheureusement, la réalité, c'est pas comme ça. Et encore une fois, comme vous dites, c'est considérer la femme comme un objet de plaisir. Ce n'est pas la considérer comme un être humain à part entière. Et c'est certainement, je trouve que ça fait preuve d'un manque de respect total. Eux qui crient toujours respect en permanence, là, hein?
On est d'accord.
Donc voilà, pour vous, que pourrions-nous faire afin que la musique et l'art favorisent des modèles d'égalité entre hommes et femmes ?
Écoutez, je ne sais pas. Moi, ce que je vois, c'est que déjà, au niveau du racisme, par exemple, je pense que la musique, mais c'est comme ça pour le théâtre aussi, sans doute, je pense que la musique dépasse ça. C'est-à-dire que le fait de travailler avec des musiciens d'origines différentes, de mélanger les styles, etc. Enfin, moi, j'ai toujours eu des musiciens qui venaient de tous les pays et de tous les horizons. Je pense qu'on peut essayer de faire passer des messages, mais aussi d'exister, de prendre vraiment sa place dans la société, quoi.
Nous vous proposons un nouvel extrait de notre micro-trottoir, dont la question était « Est-ce que tous les hommes violents sont des anciens enfants battus ?» Est-ce que, pour vous, les hommes violents ont été des anciens enfants battus ? Est-ce qu'ils ont été battus dans leur enfance ou...
Non, pas spécialement. Enfin, oui, il y aura des gens qui ont été battus pendant leur enfance, qui vont totalement rejeter ça et qui vont jamais lever la main sur personne et tout. Et puis il y en a d'autres qui auront des antécédents violents et seront peut-être un peu plus violents, mais je pense pas que ce soit vraiment une corrélation non plus.
Non, pas forcément non plus. Parce qu'un enfant, un ancien enfant battu peut très bien ne pas répéter les mêmes schémas qu'il a appris. Enfin, c'est un peu... ça dépend en fait, de chaque personne. Il y a des gens qui sont résilients, il y a des gens qui ne le sont pas, qui arrivent à rebondir, et d'autres qui répètent les schémas qu'on leur a inculqués. Voilà, simplement.
Mais c'est souvent ce qu'on dit. Mais moi, je connais des enfants qui ont été battus, qui, adultes, n'ont jamais levé la main.
Des sur, jeunes qui n'ont jamais été violents et qui peuvent voilà, devenir
et
violents.
Et des enfants qui étaient super gâtés et qui, après, ont frappé leurs femmes ou leurs enfants. Donc, c'est pas vraiment...
Et est-ce que vous pensez que les hommes violents sont souvent, ont été souvent battus durant leur enfance ?
Il y a des cas, il faut étudier, j'ai dit qu'il faut étudier cas par cas. Il y en a ceux qui sont justement dans cette étape pour avoir été battus pendant l'enfance. Il y en a d'autres qui développent un vice, malheureusement très mauvais, mais qui
ont été battus pendant leur enfance, vous pensez qu'ils vont battre plus tard ?
Oui, psychologiquement, ça arrive qu'on intériorise une frustration.
Il y a moyen, entre guillemets, de soigner.
Et évidemment, on peut la soigner parce qu'il faut les traiter psychologiquement. Il y a des cliniciens qui sont chargés de ça, il y a des psychologues qui font des études, qui relèvent des cas pareils qu'il faut attaquer par des remèdes appropriés.
Et vous, Dani Klein, qu'en pensez-vous de ce préjugé qui dit que les hommes violents ont tous été des enfants battus ?
Mais je pense qu'on ne peut pas faire de généralité. Je pense qu'effectivement, ce que les gens disent est vrai, c'est qu'il y a des gens qui répètent un comportement, et puis il y en a d'autres qu'ils ont subi, et puis il y en a d'autres qui changent, enfin, je veux dire, qui radicalement adoptent une autre position. Ce qui est sûr, je pense, c'est qu'à la base, il y a ce sont des gens qui ne supportent pas la frustration. Qui doivent avoir raison toujours, qui doivent avoir le contrôle, le pouvoir en tout cas, et qui ne supportent pas la frustration, ils ne supportent pas qu'on leur dise non, ils ne supportent pas, voilà, et donc ça doit être effectivement, j'imagine qu'il doit y avoir un problème au niveau de l'éducation des enfants qu'on a, voilà, qu'on a trop frustrés ou qu'on n'a pas suffisamment frustrés peut-être, hein. La frustration, elle est, je dirais, il faut pouvoir accepter qu'on ne peut pas tout avoir, qu'on n'est pas tout puissant, qu'on ne peut pas, voilà, qu'il y a des choses auxquelles il faut renoncer, ça c'est la vie ça, et puis peut-être que, voilà, que le problème il prend sa racine là.
Il faut savoir en tout cas que ce schéma, on le crée de nouveau en étant adulte, il faut savoir que ça se soigne.
Oui, absolument, c'est ça le message en fait, je me dis, c'est ça, il faut pas diaboliser non plus, je veux dire, bon, si quelqu'un a un comportement violent, bien sûr, il faut pas le subir, ça c'est une chose, mais il faut faire passer le message, ça je pense qu'on n'y est pas encore arrivé, que c'est effectivement une maladie, et que les maladies, ça se soigne à condition de vouloir se soigner, d'abord de prendre conscience qu'on est malade. Et une fois qu'on a pris conscience, qu'on accepte qu'on est malade, qu'il y a quelque chose vraiment là dans le comportement qui ne fonctionne pas, qui n'est pas juste, et à ce moment-là, de prendre la décision d'y faire quelque chose.
Sans doute, le fait d'avoir vu le cas échéant des violences ou le fait d'avoir été maltraité peut avoir un impact sur le comportement des gens. Toutefois, la vraie question reste celle-ci. Pourquoi, même ayant été battu, certains frappent et d'autres pas ?
Oui, mais c'est parce qu'on est, je veux dire, chaque individu est différent et je veux dire, vous imaginez si on pouvait déjà, hein, c'est un petit peu ce que Sarkozy essaye de faire passer, c'est que si déjà on pouvait faire une espèce de portrait comme ça, oui, dans son enfance il a vécu telle chose, donc il va avoir tel comportement. Heureusement, ce n'est pas comme ça. Il y a des surprises et les gens ne répètent pas forcément un comportement qu'ils ont eux-mêmes, dont ils ont été victimes eux-mêmes. Je veux dire, il y a des gens enfin, tout le monde se débrouille avec la vie de manière différente, et il y a des bonnes surprises, effectivement, hein, parce que sinon, on pourrait...
Heureusement.
Oui, effectivement, oui.
Il y a des gens qui vont avoir plus tendance à rejeter la violence quand ils l'ont vécu pendant leur enfance.
Voilà, oui, oui, tout à fait.
Il y en a d'autres qui vont la répéter. Quoi.
Cela dit, je pense que si on a été victime de violence, c'est pas mal de faire un travail sur soi et de retourner un petit peu vers le passé, de dire tiens, comment est-ce que moi j'ai vécu ça, comment est-ce que je me suis débrouillée avec ça, et qu'est-ce que j'en fais. Voilà, c'est ça, oui. Mm-hmm.
À présent, nous enchaînons avec un autre préjugé qui avance que les hommes violents proviennent des milieux populaires. Nous écoutons un nouvel extrait de notre micro-trottoir.
Est-ce que les hommes violents proviennent tous des milieux populaires, modestes ou défavorisés ?
Non, je pense pas, non.
Non ? Je vais développer un petit peu ?
Ça dépend de... Tu peux être né dans un milieu populaire ou quoi, mais avoir eu... Enfin, c'est pas parce que tu es né dans un milieu populaire que tu as une mauvaise éducation. Et voilà, ça dépend de ton parcours de vie. Enfin... Aussi évidemment du milieu dans lequel tu vis, mais bon, c'est pas ça qui va être un facteur prépondérant pour moi. Bon, après l'alcool, ce genre de truc, évidemment, que peut-être que les gens défavorisés en buvront plus, ou je sais pas, parce que voilà, et du coup ils seront plus violents ou quoi, mais je pense pas spécialement qu'il y ait de corrélation.
Non, je pense que juste le milieu social n'influe pas vraiment, c'est juste une manière, on va dire, de... Soit c'est une manière de penser parce que c'est quelque chose qu'on... Qui est... Enfin, par exemple, je sais que dans les, on va dire, les origines latines, il y a plus de tendances violentes, n'est-ce pas, en Espagne, où cinq femmes... Non, une femme sur cinq se fait battre encore aujourd'hui.
On parle des jeunes.
Mais même, ça reste... Ça, il m'énerve pas, quoi. Enfin, je pense que c'est pas quelque chose de... Qui caractérise spécialement le fait d'être violent ou pas. Voilà.
Bon, la violence, ce n'est pas c'est un état d'âme. On ne peut pas attribuer ça à un milieu ici ou là-bas. La violence, c'est plutôt individuel. Il faut traiter cas par cas.
Est-ce que tu penses que les hommes violents proviennent de milieux spécialement populaires, modestes ou défavorisés ?
Non, pas forcément. Enfin, même absolument pas.
Pourquoi ? Tu sais développer un petit peu ?
Je sais pas, je pense que c'est plus en rapport avec le vécu de la personne et que ça reste assez personnel, quoi. Comme, je sais pas. C'est une question un peu bizarre, quoi. Mais non, je pense pas du tout.
Question bizarre.
La psychologie de la personne, et donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit d'un quartier populaire ou qu'il soit riche. Ça dépend de ce qu'il a appris dans ses enfants.
De l'influence familiale, voilà,
voilà.
Il vit.
Voilà, exactement.
Et vous, Dani Klein, qu'en pensez-vous ?
Mais moi, je pense qu'il y a de la violence. D'abord, il y a des distinctions à faire. Il y a la violence verbale, il y a la violence physique. La violence verbale peut être aussi... est peut-être moins apparente et moins visible, mais ça peut être très grave aussi. On peut détruire quelqu'un avec des paroles aussi. Mais effectivement, je pense qu'il y a autant de violence dans les milieux favorisés que dans les milieux défavorisés, puisqu'on emploie cette expression.
Ils sont peut-être plus cachés dans les milieux favorisés.
Exactement, je pense qu'effectivement, dans les milieux favorisés, ça se voit moins, c'est moins visible.
On parle moins facilement.
Et on
aussi.
En parle moins, il y a plus de honte. Enfin, je dis voilà, c'est. Mais je pense qu'il y a absolument. D'ailleurs, je me souviens, j'avais fait une émission comme ça avec Amnesty sur RTL. Et. RTL avait invité des femmes qui avaient été victimes de violences conjugales. Et justement, on nous avait un petit peu fait le reproche. J'avais une amie qui m'avait dit, écoute, c'était très bien cette émission, mais c'est dommage parce qu'on ne donne pas la parole aux femmes qui viennent de milieux favorisés. En général, on donne la parole aux femmes qui viennent de milieux défavorisés, qui, elles, acceptent de témoigner. Les femmes de milieux favorisés ont probablement plus difficile à accepter de témoigner. Mais je pense que ça se passe dans tous les milieux.
Je pense que dans certains milieux... populaires, les femmes ont du mal à témoigner justement parce qu'elles proviennent d'une certaine communauté où si elles témoignent, ce serait une honte aussi.
Oui, mais là, on a effectivement. Oui, mais vous savez, ça peut être une communauté, mais ça peut aussi être parce que quand on est bourgeoise et qu'on dépend financièrement, par exemple, de son mari, on n'a pas intérêt non plus à aller dénoncer ses pratiques, ce qui se passe à la maison. Donc, je veux dire, c'est toujours, encore une fois, quand on est dans une situation où on est dépendant des autres et que, voilà, pour sa survie, on a besoin effectivement de rester dans le groupe et donc de taire certaines choses pour ne pas se mettre en danger, quoi, quelque part. Donc on est entre deux dangers. On a le danger d'être rejeté par sa communauté et à la maison le danger de se faire tuer, de se faire, enfin voilà. Donc ce sont des choix difficiles à faire. Il faut quand même savoir aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui, quand elles quittent un mari violent, il y en a quand même qui se font assassiner, hein. Je veux dire, ça s'est passé encore il y a pas longtemps. Donc je veux dire, c'est pas facile non plus de rompre avec sa famille, avec son environnement social. Je veux dire,
Énorme.
Il y a une pression énorme, hein. Oui, oui.
Oui, même quand la femme rompt avec son mari, il arrive que le mari est toujours derrière avec des
Absolument.
Pressions psychologiques et elle revient en se disant que ça vaut mieux que les pressions psychologiques et les menaces de mort.
Oui, et je vais vous parler là d'expérience personnelle. Quand vous quittez un partenaire violent et qu'il vous téléphone et qu'il téléphone à tout le monde, il téléphone à votre famille, il téléphone à vos amis, il harcèle absolument tout le monde, à un moment donné, vous êtes tellement gêné d'imposer ça aux gens qui vous aident que finalement, vous y retournez. Et donc, voilà, c'est pas parce qu'on quitte que le problème s'arrête. Hein.
Non, loin de là.
Parfois, on peut penser aussi que si la personne frappe, c'est parce qu'elle n'est pas bien, donc on a tendance à la protéger, à lui trouver des excuses aussi.
Oui, mais ça, c'est toujours le syndrome de Stockholm. Là, finalement, on trouve des excuses à celui qui vous... Voilà, c'est un petit peu... Parce que moi, je pense, c'est une opinion tout à fait personnelle, mais je me dis que parfois, quand on est victime de ce genre de choses... On se dit, mais est-ce que l'humanité est comme ça? Est-ce que les gens sont comme ça? Ou alors, est-ce que c'est tellement horrible? Est-ce qu'on peut vivre avec l'idée que le monde soit aussi méchant, aussi cruel? C'est pas possible. Donc, je dois moi-même avoir une responsabilité là-dedans. Est-ce que c'est moi qui ai engendré ce type de réaction, quoi?
D'accord. Donc, voici une musique... qui s'appelle Il suffisait d'y croire, qui est extraite du nouvel album de Danny Klein.
Contourner le précipice, tenir sur la distance, apprendre le sacrifice, toucher 100 fois le fond, le point de non-retour. Ployer sous les affronts au nom du grand amour. Subir n'était rien. Ravaler sa colère et toujours faire mieux que bien. Se dire qu'avec le temps, il finirait par changer. Que tout serait comme avant. Qu'il ne se mette à cogner. Et puis un beau matin, se croiser dans le miroir. Savoir que c'est la fin et partir sans un regard. Pourquoi on n'en sait rien? Trouver le courage de bousculer le destin.
Dani, comment définirez-vous la violence amoureuse ?
Ouh là là, mais comment définir ? Mais justement, quand il n'y a pas le respect de l'autre en tant qu'individu, hein, quand on fait passer ses envies, ses désirs avant ceux de l'autre, je pense que quand il n'y a pas de respect, oui, oui.
Est-ce que pour vous, il y a une différence entre les violences et les disputes ?
Oui, parce qu'une dispute, bon, je pense que les disputes sont salutaires. De temps en temps, il faut... sanitaire, j'allais dire. De temps en temps, il faut... Enfin, je veux dire, c'est normal qu'on ne soit pas toujours d'accord. Et c'est normal, de temps en temps, que, voilà, on s'exprime et que, parfois, on s'énerve un peu. Je veux dire, on n'est pas, voilà, on n'est pas censé être zen en permanence non plus. Je veux dire, on est des êtres humains, et voilà. Mais ce qu'il y a, c'est quand quand il y a escalade et quand il y a effectivement le désir de contrôler l'autre, de réduire l'autre à ce qu'on voudrait qu'il soit. Et effectivement, donc, comme on le disait tout à l'heure, et comme le disaient les témoignages aussi, il y a cette dans la violence amoureuse, il y a toujours cet aspect où ça commence par on n'aime pas vos amis, et puis on vous éloigne de votre famille, on vous isole. En fait, il y a vraiment toute une espèce de modus operandi de prédateur comme ça, hein, c'est-à-dire mais ça se passe très lentement. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui vient d'emblée, hein. Je veux dire, c'est vraiment d'abord on vous met en confiance, d'abord on vous dit ce que vous avez envie d'entendre, et c'est pour ça que c'est très difficile de sortir de cette situation, parce que on se rappelle tous ces bons moments, on se souvient de, et donc voilà, on est là avec en face de quelqu'un qui a deux visages, qui a deux manières de fonctionner, et on a difficile à sans, on a l'impression de devenir fou parfois, hein, de se dire mais est-ce que c'est moi qui ai rêvé tout ça, mais qui est cette personne en face de moi?
Donc vous-même, vous avez mené une campagne avec Amnesty International. Mmh. Et quel impact a eu cette campagne sur la violence chez les adultes et les jeunes, vous pensez ?
Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut faire plus. Je pense qu'il faudrait des centres où... je pense qu'il faudrait faire... je pense que l'État devrait s'occuper de ce problème. Je pense qu'il faudrait faire des campagnes, justement, qui soient dirigées aussi vers les hommes, où on dise aux hommes, voilà, si vous avez ce genre de comportement... il faut y faire quelque chose, ce n'est pas normal, voilà. Je veux dire, sans effectivement diaboliser, et je pense qu'il faudrait vraiment faire des campagnes de prise de conscience et de bien communiquer le message que ce n'est pas un comportement acceptable, que la violence à l'égard des autres est inacceptable.
On en parle moins, mais il y a aussi des hommes qui sont battus.
Absolument, il y a des hommes qui sont battus, il y a des enfants qui sont battus. Parce que ça aussi, je veux dire, les enfants, eux, n'ont même pas le droit, ils n'ont même pas la possibilité de se défendre. Hein, donc, je veux dire, je pense qu'il faut vraiment faire passer le message que la violence à l'égard, que le fait d'utiliser un être humain en tant qu'objet, et voilà, c'est pas acceptable. La violence vis-à-vis des enfants, la violence vis-à-vis des femmes, la violence vis-à-vis de toutes les formes de violence sont inacceptables.
Et vous pensez que cette violence a plutôt tendance à augmenter ou à diminuer ?
Écoutez, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas l'impression que ça diminue, malheureusement.
Ouais. Nous, dans les sondages qu'on reçoit, oui, c'est qu'on en parle plus, donc on a l'impression qu'il y a plus de violence, mais qu'elle aurait plutôt tendance à diminuer, mais on en parle plus.
Si elle diminue, c'est une bonne chose, c'est une excellente nouvelle. Mais moi, je vois, par exemple, qu'en Espagne, il y a quand même X femmes qui... Enfin, je veux dire, ou même en France, enfin, je ne sais pas, je ne suis pas au courant des statistiques.
Il y a une femme qui meurt tous les deux jours suite aux violences.
Voilà, c'est quand même incroyable, hein, franchement. Hein ?
Tout à fait. Oui. Vous, les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui est victime de violence ou pour aider les gens à arrêter justement ces violences ?
Écoutez, c'est un parcours tellement personnel, mais je pense d'abord, il faut bien savoir que quelqu'un qui vous frappe une fois recommencera. Et si on accepte de recommencer, on est aussi un petit peu responsable. Donc je pense qu'il faut vraiment détecter les premiers signes. Et au premier signe, il faut arrêter. Je veux dire, vous n'allez pas faire d'un homme qui est violent un homme non violent. C'est à lui de faire le travail pour qu'il change. C'est pas vous qui allez le changer. Et l'inverse est vrai aussi. Moi, je connais effectivement, comme disait un des témoignages, des hommes qui se font harceler par des femmes qui les appellent 25 fois, qui sont jalouses, qui contrôlent tout ce qu'ils font. Je veux dire, bon, je pense que la solution, c'est peut-être d'aller en thérapie ensemble et d'aller en parler à quelqu'un, en tout cas. Mais tout seul, ça me semble difficile de régler ce problème.
Et vous pensez qu'il y a assez d'infrastructures pour aider les gens, justement, qui ont cette violence ?
Moi, je pense qu'il manque vraiment d'infrastructures. Et comme on disait, par exemple, les femmes qui ont le courage alors de partir et qui quand même se font assassiner, il faudrait vraiment que l'État mette à notre disposition beaucoup plus de moyens pour pouvoir accompagner ces femmes. Parce que ce n'est pas parce qu'elles vont dans un refuge, ce n'est pas parce qu'elles arrivent à casser, à rompre la situation familiale qu'elles ne sont plus en danger. Et là, je trouve qu'on ne les accompagne pas suffisamment.
Et vous, est-ce que dans votre entourage ou dans votre vie personnelle, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de situation ?
Oui.
Oui ? Est-ce que vous ne souhaitez pas en parler ?
Si, moi je peux en parler. C'est ce que je fais d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est pour ça que...
Vous avez déjà cité à plusieurs moments, c'est pour ça que je vous demande ça.
Oui, non, bien sûr. Et c'est pour ça que je peux en parler, parce que je l'ai vécu. Hein. Je veux dire, voilà.
Et c'est ça qui vous a décidé à aider les gens à...
Bien sûr, oui. Oui, oui.
Ça va.
Voilà.
Et pensez-vous que la violence amoureuse chez les jeunes précède la violence conjugale chez les adultes ?
Bien sûr, oui, bien sûr. Je pense que ça commence très très tôt. Je pense que tout commence aussi pour ceux qui sont victimes de la violence, d'une mauvaise image de soi, d'un besoin d'être aimé à tout prix, d'une peur aussi de la solitude, hein, parce qu'il y a ça aussi. Je veux dire, c'est vrai que quand on a peur d'être seul, on va parfois accepter des choses qui sont inacceptables.
Et pensez-vous que certains facteurs favorisent l'émergence de la violence, comme l'alcool par exemple ?
Ah, écoutez, ça n'aide pas, ça c'est sûr. Je pense qu'on connaît tous des gens qui ont des comportements très différents et qui sont beaucoup moins inhibés, donc, hein, puisque l'alcool désinhibe. Et donc effectivement, si quelqu'un a un fond, une colère qui vit à l'intérieur de lui, une espèce de violence comme ça à l'intérieur, que effectivement l'effet de l'alcool va peut-être faire ressortir ça plus facilement, oui.
Là, on est face à un double problème.
Oui. Mais là, il faudrait, enfin, je veux dire, celui ou celle qui a ces problèmes-là devrait se... Je veux dire, je pense que tout commence toujours par la réalisation de son problème, accepter de se dire, tiens, voilà, je suis alcoolique ou je suis violent. Je veux dire, à ce moment-là, à partir du moment où on accepte ça...
Tous les alcooliques ne sont pas violents.
Et tous les alcooliques ne sont pas violents, mais tous les alcooliques sont alcooliques.
Oui. En effet. Donc à ce propos, nous vous invitons à entendre un nouvel extrait de notre micro-trottoir. Est-ce que tous les hommes violents sont-ils alcooliques ? Et alors, est-ce que vous pensez que les hommes violents sont généralement alcooliques ?
Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux?
Les alcooliques sont violents, mais je ne sais pas si tous les violents sont alcooliques. Non, je ne sais, non, je crois pas.
C'est plus dans l'autre sens peut-être.
Ouais, à mon avis, je suis plus d'accord avec lui, c'est plus dans l'autre sens. C'est l'alcoolisme engendre la violence, mais la violence n'engendre pas l'alcoolisme.
Non, je pense pas. Je pense pas, non. Parce que l'alcool, non, il y en a qui vont boire, ça va les exciter. Il y en a, ils vont boire, ça va les... Justement, ça va les calmer. Donc je pense pas que parce qu'on est alcoolique, on va en venir à la violence.
Est-ce que d'après vous, les hommes violents sont-ils alcooliques? Ou est-ce que l'alcool...
Balle dans leur peau, surtout, et dans leur tête. Mais pas forcément alcoolique.
Oui. Pourtant, c'est quand même une idée assez répandue que les hommes violents sont des alcooliques.
C'est faux. Nous, on connaît des cas et il n'était pas alcoolique du tout. Il, au pluriel, hein, n'était pas alcoolique du tout.
Belle situation même, etc. Oui. Donc,
mal dans pas vraiment. Peau, ou bien parce qu'il ne savait pas se faire, il ne savait pas s'exprimer autrement.
Pas nécessairement. Il y en a ceux qui sont alcooliques, il y en a d'autres qui sont atteints d'autres vices de la société. Ça dépend.
L'alcool n'est pas une cause d'excuse. Elle n'exonère pas l'agresseur de sa propre responsabilité. Si l'alcool permet de lever les inhibitions, il faut constater que les violences ne s'exercent pas sur n'importe quel cible. Voici une musique de Juliette Gréco. Le titre est « Mon homme ».
Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. Cet idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. Dès qu'il s'approche, c'est fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi. Je tuerais ma foi, je sens qu'il me rendrait infâme. Mais je ne suis qu'une femme et je l'ai tellement dans la peau. Pour le quitter, c'est fou ce que m'ont offert d'autres hommes. Entre nous, voyez-vous, ils ne valent pas très cher tous les hommes. La femme, à vrai dire, n'est faite que pour souffrir par les hommes. Dans les balles, j'ai couru afin d'oublier, j'ai bu, rien à faire. J'ai pas pu. Quand il me dit viens, je suis comme un chien. Y a pas moyen, c'est comme un lien qui me retient. Je l'ai tellement dans la peau que j'en suis dingo, que celle qui n'a pas aussi connu ceci ose venir la première me jeter la pierre. En avoir un dans la peau, c'est le pire des maux, mais c'est connaître l'amour sous son vrai jour. Et je dis qu'il faut qu'on pardonne quand une femme se donne à l'homme qu'elle a dans la peau.
À présent, nous passons à la définition de l'amour. Danny Klein, qu'est-ce que l'amour d'après vous ?
Mais c'est pas ce que Juliette Gréco vient de nous raconter, en tout cas. Parce que si l'amour, c'est être mal et se faire taper dessus et se faire... Non, franchement, là, non. Je pense que l'amour, ça ne peut pas exister sans respect. Ça, c'est... Il n'y a pas de respect, c'est de la dépendance affective. Et la dépendance affective est tout à fait différente de l'amour.
Et est-ce que vous pensez qu'on aime quand on est violent ?
Mais écoutez, non, c'est de la dépendance affective. On ne peut pas aimer s'il n'y a pas le respect de l'autre. Je suis persuadée que c'est impossible. Ce n'est pas de l'amour, alors, non.
Ok. Amnesty International met en évidence des chiffres alarmants chaque année. Plus de 70 femmes par an perdent la vie suite à des violences conjugales. La violence conjugale est véritablement un problème de santé publique. Pensez-vous que les campagnes de lutte contre les violences amoureuses devraient prendre la même ampleur que le Télévis ou Cap 48, car nous savons pertinemment bien que ce problème touche de plus en plus de monde ?
Absolument, absolument. La violence contre les femmes, la violence contre les enfants, la violence dans son ensemble, absolument, oui.
Ok. Eh bien, nous vous remercions, Dani Klein, de nous avoir consacré du temps.
Mais c'était un plaisir.
On vous souhaite beaucoup de succès dans votre carrière.
Merci, à vous aussi.
Merci.
Donc, pour plus de renseignements, vous pouvez aller sur le site www.msansviolence.be et sur le site d'InfoJeune, www.infojeune-bxl.be. Si vous souhaitez réentendre cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site d'ailleurs d'InfoJeune. Donc, on remercie bien sûr Déborah qui est au studio. On remercie Chantal, Hussein et Déborah, je viens de le dire. Et nous-mêmes, bien entendu,
Dani Klein. Oui, voilà.
Et donc, pour rappel, ce programme a été subventionné par le Fonds d'aide à la création radiophonique et par la communauté française, secteur et égalité des chances.
On va se retaper sur les doigts. Merci, au revoir.
Au revoir.
Tu restes là, tu crois que c'est un mec ou quoi ? J'en ai rien à foutre, tu poses ton cul là-dessus, là.
Elle ne me permet pas d'avoir mes propres amis.
Ils n'aiment pas que je passe du temps avec ma famille ou mes amis.
Elle m'a tapé et poussé dans les escaliers.
Il veut m'imposer certaines pratiques sexuelles. Je ne les aime pas, ces pratiques. Et quand je le lui dis, il me dit mais...
Alors qu'il était violent, il revient avec un bouquet de fleurs.
Elle critique tout et n'est jamais contente.
Il casse tout dans la maison, ça la signifie. Je pourrais
elle me téléphone sans arrêt sur mon téléphone portable.
Il me dit les enfants ne ferment jamais les portes. Ils n'éteignent jamais les lumières. C'est fou ce que tu les élèves mal.
Quand on se dispute, il rédige son testament. Il dit qu'il va se tuer et que ce sera de ma faute.
Tu as encore dépensé tout ce que je t'ai donné. Dernièrement, c'est moi seule qui aurai accès au compte en banque.
Tu n'es vraiment bon à rien.
Il crie chaque soir.
Il crie chaque soir.
De les mettre tabous, mais craignant si je n'en parle plus, de finir à l'armée du salut, je remets bientôt sur le tapis les fesses impies. Je suis le pornographe du phonographe.